Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Les mesures anti-Covid du gouvernement pour sauver Noël, fermeture des discothèques, protocole renforcé à l'école, appel au télétravail. Dans un instant, focus sur toutes les annonces de Jean Castex. C'est donc un nouveau coup de massue pour les boîtes de nuit. Vous entendrez également la surprise et la colère du représentant de la profession. Nous irons également dans un centre de vaccination alsacien, pris d'assaut dès sa réouverture, à l'heure où la campagne de rappel vaccinal bat son plein. Une enquête ouverte après les violences qui ont émaillé hier le meeting d'Éric Zemmour. Son avocat l'assure, la sécurité était correctement assurée, vous l'entendrez. Ariane engage une course de l'espace avec SpaceX. Le groupe européen se lance à son tour dans les lanceurs spatiaux réutilisables. Explication à suivre. La météo, il faudra encore patienter avant le retour du soleil. Ce sera un mardi toujours maussade. L'invité éco à 22h20 vous emmène au salon nautique qui se tient en ce moment à Paris. Et puis on découvrira les unes des quotidiens de demain matin.
Europe 1.
C'est donc un petit tour de vis qu'a annoncé ce soir Jean Castex à l'approche des fêtes de Noël. La situation sanitaire se dégrade, le gouvernement réagit tout en évitant les restrictions les plus lourdes. On va reprendre en détail les annonces du Premier ministre avec vous, Céline Géraud. Bonsoir.
Bonsoir Alexandre.
C'est d'abord, Céline, un renforcement du protocole sanitaire à l'école.
Oui, dès jeudi, l'école primaire va donc passer au niveau 3 du protocole sanitaire, ce qui veut dire masque obligatoire en intérieur et en extérieur. Toutes les activités sportives en intérieur se feront là aussi désormais masquées. Et puis dès lundi, pour limiter les brassages à la cantine, les enfants seront regroupés par classe au moment des repas. Deuxième annonce très attendue, la vaccination des 5-11 ans. Ce sera possible dès le 15 décembre pour les 360 000 enfants les plus fragiles avec des pathologies à risque. Et pour les autres, eh bien le Premier ministre Jean Castex a donné le calendrier.
Sous réserve des avis et des instances scientifiques et du Conseil national d'éthique, nous projetons de pouvoir l'ouvrir à tous les enfants sur la base, évidemment, du volontariat, si possible, d'ici la fin de l'année.
Plus précisément, cela pourrait commencer dès le 20 décembre en centre de vaccination et à partir du 27 décembre en médecine de ville. Cette campagne de vaccination concerne 6 millions de jeunes enfants.
Et parmi les annonces de ce soir, Céline, on retient aussi l'appel de Jean Castex à relancer le télétravail ainsi qu'à limiter les interactions sociales. Tout cela jusqu'aux fêtes de fin d'année, l'idée étant toujours bien sûr de sauver Noël.
Effectivement, pour enrayer la circulation du virus, le Premier ministre recommande 2 à 3 jours de télétravail quand c'est possible. Il appelle aussi à reporter le maximum d'événements festifs professionnels, comme les soirées de fin d'année ou les pots de départ, très nombreux en décembre. Même consigne dans la sphère privée. Jean Castex demande de lever le pied. L'objectif, limiter les rassemblements et appeler à la responsabilité de chacun.
Lever le pied donc sur les mouvements de convivialité. Dans cette même veine, Céline, le Premier ministre annonce aussi une mesure plus radicale. C'est la fermeture des boîtes de nuit pour 4 semaines dès ce vendredi soir.
Oui, et c'est un coup dur pour les discothèques qui avaient pu reprendre leur activité le 9 juillet dernier après 15 mois de fermeture. Dès vendredi, elles vont devoir fermer à nouveau et pour 4 semaines. Une décision justifiée par la difficulté d'appliquer les gestes barrières dans ces établissements fréquentés par une population où le virus circule beaucoup. Jean Castex a tenu à le préciser, les professionnels concernés seront accompagnés économiquement.
Merci Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1. Parmi toutes les annonces de ce soir, la plus ferme est donc bien ce nouveau coup de massue pour les discothèques qui vont rester fermées pendant toute la période des fêtes. Une mauvaise surprise pour Christian Jouni, délégué général du syndicat national des discothèques et lieux de loisirs. C'est pour lui un nouveau coup dur dont il ne comprend pas la logique.
C'est pour moi un non-sens pour plusieurs raisons, mais la première d'entre elles, c'est que je m'aperçois que le gouvernement ne renforce pas les protocoles sanitaires ailleurs. En dehors de l'école, je n'ai absolument rien entendu concernant les bars ou les restaurants, à l'intérieur desquels aucune mesure comme le contrôle de la pièce d'identité n'est imposée. Alors que dans les discothèques, depuis la réouverture, on nous a imposé un protocole sanitaire drastique. Donc c'est pour nous incompréhensible de voir ce type de décision arriver, comme si nous n'avions pas assez souffert. Je rappelle que nous avons été fermés pendant 16 mois consécutifs. 16 mois consécutifs.
Oui, auxquelles s'ajoutent donc ces quatre nouvelles semaines de fermeture des boîtes de nuit. C'était Christian Jouni du Syndicat national des discothèques avec Élise Dangean. Les entreprises, elles, sont donc priées de faire monter à nouveau en puissance le télétravail à raison de 2 à 3 jours par semaine. Pour l'instant, c'est une recommandation, mais qui pourrait bien glisser vers une obligation, prévient Jean Castex. Si les entreprises ne sont pas au rendez-vous, une logique jugée plutôt saine pour Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH.
Ce qui est bien, c'est que le gouvernement commence par faire confiance aux entreprises. C'est-à-dire qu'il ne part pas direct sur l'obligation. On sait que les entreprises qui ont des accords ou des chartes sont plutôt à 3 jours ou 2 jours. Donc ça devrait aller. Mais la question, c'est est-ce que celles qui n'en ont pas vont emboîter le pas et éviter que le gouvernement nous mette en place le télétravail de principe qu'on redoute tous. Je comprends que certaines n'en veulent pas, que ça perturbe leur organisation, tout ça, je le comprends très bien. Mais rien ne serait pire qu'une obligation qui tomberait, parce que ça créerait des conditions de télétravail moins bien préparées, alors que si on s'y met là pendant 10 jours pour celles qui n'en ont pas encore, ça permet de le préparer au mieux des intérêts et des salariés et des entreprises.
Benoît Serre de l'Association des directeurs de ressources humaines, réaction recueillie par Élise Dangean. Plus que jamais, le vaccin s'impose donc comme l'arme numéro 1 contre le Covid. C'est le cœur de la bataille, a redit ce soir Jean Castex, le Premier ministre qui appelle tous les Français à recevoir leur dose de rappel. Ils sont déjà 10 millions dans ce cas. Il appelle aussi les 10% de non-vaccinés à franchir le pas. Chaque jour, 20 000 à 30 000 Français changent d'avis, dit Jean Castex, et vont finalement se faire vacciner. Direction l'Alsace. À Aubernais, près de Strasbourg. Ici, le centre de vaccination vient de rouvrir et il a déjà reçu beaucoup de monde tout au long de la journée. Mélina Fachin.
Depuis la réouverture du centre ce matin, les soignants sur place n'ont pas arrêté une minute.
Tout va bien aujourd'hui.
Marie Clem, infirmière libérale en charge du centre de vaccination d'Aubernais, constate avec satisfaction que la campagne de rappel fonctionne très bien.
Tous les créneaux qui ont été ouverts sur Doctolib pour l'instant ont été pris d'assaut en l'espace d'une journée. Tout était pris. Alors il y a des créneaux toutes les 10 minutes, en sachant qu'on a 5 salles de vaccination. Donc toutes les 10 minutes, il y a 5 patients qui arrivent.
En une première journée, plus de 600 personnes ont été vaccinées. Malgré ce rythme soutenu, tout est bien organisé, les patients s'enchaînent.
Ah oui, nickel. Ça a été super rapide, il n'y a pas d'attente.
Sabine, son mari et leur fils n'ont pas hésité à faire 1 heure de route aller-retour pour obtenir leur 3e dose.
Près de chez nous, le centre était certainement encore fermé au moment où j'ai pris les rendez-vous. Il n'y avait pas de date ouverte avant janvier. Donc nous, on voulait être vaccinés avant les fêtes parce qu'on va être en famille et qu'on a des anciens avec nous. Donc on veut essayer de les protéger.
Le centre d'Aubernais, qui va pouvoir injecter 3000 doses par semaine, mettra bientôt en ligne de nouveaux créneaux de vaccination. Aubernais, Mélina Fachin, Europe 1.
De nouveaux centres de vaccination vont ouvrir également à Paris, 1 par arrondissement, plus 3 centres de grande capacité à Paris Expo, à la Villette et à la station F. La pression s'accentue sur l'hôpital après les hôpitaux alsaciens de Strasbourg, Mulhouse et Colmar. Et bien c'est maintenant au tour des 13 hôpitaux publics de Lyon de déclencher le plan blanc, un plan qui permet en particulier de répartir l'offre de soins anti-Covid dans tous les services hospitaliers. Dans le Rhône, le taux d'incidence dépasse désormais 600 cas pour 100 000 habitants. Ce n'est pas une surprise si les arrêts maladie sont repartis cette année à la hausse, selon le baromètre Malakoff Humanis, 2 ans après le début de la pandémie, nous vivons toujours avec le virus. Maud Descamps, le nombre d'arrêts liés au Covid a doublé.
En effet, l'absentéisme lié au Covid est passé de 6% au total des arrêts l'année dernière à 12% cette année. Et dans un même temps, les absences pour maladies ordinaires, c'est-à-dire la grippe, les rhumes et autres maux hivernaux, elles, ont baissé. Elle représente cette année 25% des arrêts contre 30% l'an dernier. Quand on regarde ces chiffres dans le détail, on s'aperçoit que ce sont les managers qui sont en première ligne. Un manager sur deux s'est fait prescrire un arrêt maladie ces 2 dernières années. À noter également la hausse des arrêts pour troubles psychologiques ou épuisement professionnel, c'est-à-dire le burn-out, qui sont passés de 15 à 17%. En un an, des arrêts plus fréquents dans les petites et moyennes entreprises que dans les grosses structures. Et enfin, sachez qu'il y a globalement moins d'arrêts maladie depuis la crise Covid. Ça peut surprendre, mais 38% des salariés s'en sont vus prescrire un cette année. Ils étaient 36% l'an dernier. Alors qu'entre 2016 et 2019, ce taux dépassait systématiquement les 40%. Une baisse qui serait due notamment au télétravail.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Une enquête a été ouverte sur les violences commises hier dans la salle du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. Des militants de SOS Racisme frappés et visés par des jets de chaise. Le candidat Zemmour lui-même blessé au poignet après avoir été agrippé par un homme dans la foule. Le suspect est toujours ce soir en garde à vue. Invité ce soir de Laurence Ferrari dans Punchline sur Europe 1 et CNews, maître Olivier Pardo répond aux critiques. Pour l'avocat d'Éric Zemmour, oui, la sécurité du meeting était largement assurée.
Il a deux sécurités. Il y a une sécurité qui est assumée par les services du ministère de l'Intérieur, parce que c'est une personnalité qui est exposée, qui est menacée. Et puis, il y a un service d'ordre, qui est le service d'ordre du meeting. Il y avait 200 personnes. Pardon de le dire, il y a eu des incidents, mais il y avait 12 500 à 13 000 personnes. Donc, c'était un meeting extrêmement important. Tous ces incidents qui auraient pu dégénérer, véritablement, le premier, le deuxième, le troisième aurait pu dégénérer, a été relativement bien maîtrisé par le service d'ordre. Il y a eu sûrement des fautes, il y a des choses à revoir, mais je vous rappelle que c'est un meeting qui a été fait sans parti politique qui organise. C'est un meeting qui a été organisé comme cela. Donc il faut aussi le mesurer.
Olivier Pardo, l'avocat d'Éric Zemmour, avec Laurence Ferrari dans Punchline. Le candidat Zemmour qui devait se rendre demain dans la région lyonnaise, déplacement reporté à une date ultérieure, fait savoir son équipe qui assure que ce report est sans lien avec la blessure au poignet du candidat. Valérie Pécresse, elle, a choisi les terres d'Éric Ciotti pour débuter sa campagne présidentielle. La candidate LR était aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes et vous l'avez suivi pour Europe 1, Alexandre Chauveau. L'objectif de Valérie Pécresse était bien de rassurer les électeurs d'Éric Ciotti.
Oui, même si le déplacement était prévu depuis plusieurs jours, Valérie Pécresse était très clairement venue pour tenter de désamorcer un début de tension entre elle et le député des Alpes-Maritimes. Alors les symboles avaient leur importance. On les a vus déjeuner ensemble, puis déambuler côte à côte avant de tenir un discours en extérieur, Covid oblige, devant les habitants de Saint-Martin-Vésubie. Valérie Pécresse promet que les idées d'Éric Ciotti seront bien au cœur de sa campagne.
Ce que je suis venue vous dire ici, pour rassurer tous ceux qui pourraient s'en inquiéter, c'est que Éric aura une place très singulière dans ma campagne parce qu'il a une voix très singulière à faire entendre pour le pays.
Éric Ciotti, qualifié d'héritier de Charles Pasqua par la candidate qui a préféré mettre l'accent sur leurs points communs. Nous avons en partage la volonté réformatrice, flatte Valérie Pécresse, qui dit regarder avec attention les propositions qui pourraient, je cite, pimenter son programme. Le Niçois a de son côté rappelé son soutien total et entier à la candidate qui devra néanmoins veiller dans les prochains mois à préserver cet équilibre fragile.
Alexandre Chauveau dans les Alpes-Maritimes pour Europe 1. Alors que Valérie Pécresse est en position de se qualifier pour le second tour, selon un sondage IFOP Fiducial, elle fait jeu égal dans ce sondage avec Marine Le Pen, toutes deux à 17% des intentions de vote. Première vague de sondage donc depuis que Valérie Pécresse a été investie par LR et qui voit donc un décollage de la candidate de la droite. Emmanuel Macron, lui, arriverait toujours largement en tête à 25%. Éric Zemmour en quatrième position de ce sondage à 13%. Tandis qu'à gauche, tous les candidats restent sous la barre des 10%. Le pape dénonce les commérages qui ont provoqué la démission de Monseigneur Aupetit. L'archevêque de Paris accusé d'avoir entretenu une relation intime avec une femme, ce qu'il nie, même s'il a admis un comportement ambigu. Dans l'avion qui le ramenait d'un voyage en Grèce, le souverain pontife veut relativiser les faits imputés à Monseigneur Aupetit qui l'ont toutefois conduit à accepter sa démission.
Sur le cas Aupetit,
Mais sur le cas Aupetit, je me demande, mais qu'est-ce qu'a fait Aupetit de si grave pour qu'il ait dû donner sa démission ? Il y a eu un manquement de sa part, une faute contre le sixième commandement. Pas de façon totale, mais des petites caresses, des massages qu'il faisait à sa secrétaire. C'est ça l'accusation. C'est un péché, mais le péché de chair n'est pas le plus grave. Aupetit est pécheur, je le suis aussi. Nous sommes tous pécheurs. Quand le commérage grandit, il grandit sans cesse. L'homme dont on a détruit publiquement la réputation de cette façon ne peut pas gouverner. Et cela, c'est une injustice. C'est pourquoi j'ai accepté la démission d'Aupetit, non pas sur l'autel de la vérité, mais sur l'autel de l'hypocrisie.
Voilà pour les propos du pape François qui appelle aussi à la prudence sur l'interprétation, c'est son terme, du rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église catholique française. La manière dont les abus étaient vécus n'est pas la même qu'aujourd'hui. Voilà ce qu'affirme le pape François. Il estime qu'une situation historique doit être lue dans le contexte de l'époque. Il reconnaît d'ailleurs n'avoir pas lu le rapport Sauvé, fruit de 32 mois de travail et qui recense des milliers de cas d'abus sexuels sur mineurs dans l'Église. Gérald Darmanin lui a remis ce soir la Légion d'honneur à Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, laquelle précise que les deux parties ont souhaité pour cela une cérémonie discrète. Dans le domaine spatial, en France, c'est un peu la fusée Ariane qui cache la forêt. La France a pris du retard. C'est Bruno Le Maire qui le dit, le ministre de l'économie en visite aujourd'hui sur le site d'Ariane Group à Vernon dans l'Eure. Du retard sur les Américains de SpaceX. Et c'est précisément pour les concurrencer qu'Ariane va construire son propre lanceur réutilisable, Emmanuel Duteil.
Et ce lanceur s'appelle Maya, premier lancement prévu en 2026 pour une telle rupture technologique. 2026, c'est demain. Chez Ariane, on parle d'un calendrier ambitieux, mais on se dit prêt à relever le défi. Il faut dire qu'il y a urgence, hein, comme l'a rappelé Bruno Le Maire ce matin. L'Europe a manqué le virage du lanceur réutilisable. Nous n'y avons pas cru. Nous avons pris du retard par rapport à nos partenaires américains. Et ce retard, il faut le rattraper. C'est vrai que SpaceX a totalement ringardisé ces dernières années Ariane. Ce programme va du coup être soutenu financièrement dans le cadre du plan France 2030. Alors que le site de Vernon dans l'Eure est touché actuellement par un plan social, ces mini-lanceurs ont vocation à doper l'emploi dans les années à venir.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Le temps pour ce mardi, Marlène Duret, eh bien les perturbations pluvieuses se succèdent. Hein ?
Exactement Alexandre, la perturbation d'aujourd'hui file vers l'est et on va la retrouver demain matin de l'Alsace à la Franche-Comté et aux Alpes du Nord. Il neigera faiblement à partir de 300-400 mètres et puis le temps va redevenir rapidement sec. Et donc, une nouvelle perturbation va en effet arriver par la Bretagne. Elle est en lien avec une tempête centrée sur les îles britanniques. Elle va amener quelques pluies, bien sûr, mais surtout du vent. Le vent qui va se renforcer près des côtes atlantiques, bretonnes et normandes. On attend des pointes à 90-100 km à l'heure l'après-midi. Cette perturbation va se déplacer sur la moitié ouest du territoire. Ciel couvert, donc plus ou moins pluvieux, de la Normandie à une bonne moitié ouest des Pyrénées, en passant par le centre-val de Loire, l'île et Vilaine, l'ouest de l'Île-de-France, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, le Limousin, l'Auvergne, tout le sud-ouest évidemment, avec des pluies plus soutenues vers le Poitou. Le Redoux va gagner les Pyrénées, donc la limite pluie-neige remonte à 2200 mètres. Toujours ce risque d'avalanche de 4 sur 5. Et puis l'est du pays va rester au sec, sous un ciel laiteux. Même près de la Méditerranée, le soleil va céder la place aux nuages.
Ouais, décidément.
Les températures ne bougent pas. Les maxis en journée ont tendance à remonter. Il y aura même un contraste de température, un contraste entre l'est et l'ouest. 4 degrés à Belfort, 5 à Dijon, Nancy, 6 à Strasbourg et Grenoble. Mais 13 à Quimper, à La Rochelle, à Bordeaux, 15 à Biarritz et entre les deux, 7 à Lille, 9 à Paris et Clermont-Ferrand, près de la Grande Bleue, comptez 12 à 15 degrés.
Merci Marlène Duret. Nouveau point à minuit avec vous pour la météo. Dans un instant, c'est Top à Wall Street avec Didier Hamon. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Alexandre Lemaire.
BNP Paribas, banque référente des entreprises, vous présente Top à Wall Street. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
Top à Wall Street avec Didier Hamon sur Europe 1. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street qui commence la semaine en net rebond dans un marché actif.
Ça remonte. Le Dow Jones reprend 1,87%. 35 227 points, le Nasdaq grimpe de pratiquement 1%, plus 0,93%, 15 225 points. Le marché veut croire que le variant du Covid Omicron ne sera pas trop pénalisant pour la croissance économique. Ce soir, donc, c'est un petit peu plus optimiste, hein, surtout sur les valeurs de technologie. Ça remonte de 2% sur Apple à $165,30. On a Microsoft plus 1%, Amazon plus 1% aussi. Netflix reprend 1,7%. Intel plus 3,5% à $51. Il y a une exception quand même, c'est Tesla qui ne suit pas le mouvement. Pratiquement stable, hein, moins 0,6%, $1,009. Toujours très discuté le fabricant de voitures électriques. Le pétrole remonte aussi de façon spectaculaire, de plus de 5%. Il avait beaucoup baissé, de plus de 20% ces dernières semaines. On est à $70 de nouveau le baril WTI et ça donne donc des valeurs pétrolières qui se reprennent. Exxon plus 1%, Chevron plus 1,6%, Shell plus 2% est à $19,76. L'euro reste toujours aussi calme, au-dessus des 1,13 face au dollar.
La bourse de Paris, elle aussi, a repris de la hauteur. Elle repasse au-dessus de 6800 points.
Oui, c'est assez net, plus 1,48%, 6865 points, avec l'aide du secteur aéronautique qui profite des contrats signés dans le Golfe ces derniers jours, après le voyage d'Emmanuel Macron dans la région. On a Airbus, plus 4,3%, 102,85€, après le contrat de 26 Airbus hélicoptères en Arabie Saoudite. Safran en profite, le motoriste, plus 5%, Dassault Aviation plus 3,7% encore à €93 après la commande, l'énorme commande de 80 Rafales passée par les Émirats Arabes Unis. Et puis Thalès aussi dans son sillage, grimpe de 2,2%. L'équipementier est à 74,84 €.
Exception du jour, Didier, le titre Carmat est en net recul.
Moins 7,4%, 22,40 €. Ça retombe après la suspension à titre temporaire des implantations de son cœur artificiel. Après des problèmes de qualité qui ont touché certaines prothèses, la société Carmat a pris cette décision à titre préventif. Le titre en baisse de 7,4% ce soir. Les autres places financières sont plutôt à la hausse, plus 1,4% à Bruxelles et à Francfort. Madrid remonte de 2,6%, Milan de 2,2%. On rappelle le CAC 40 en nette hausse, plus 1,48%, 6865 points.
Merci Didier Hamot.
BNP Paribas, banque référente des entreprises, vous présente l'invité éco.
Et on met les voiles ce soir sur Europe 1 puisqu'on vous emmène au Salon Nautique International qui se tient jusqu'à dimanche prochain à Paris Expo. Alors que le secteur a le vent en poupe, notre invité éco, Loïc Bonnet, PDG de Dream Yacht Group, présent sur le salon, il répond à Emmanuel Duteil. Bonsoir Loïc Bonnet.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le PDG de Dream Yacht Group. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le leader mondial de la vente de bateaux en gestion location. Vous avez 930 voiliers, monocoques et catamarans proposés à la location. Et si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est parce que là, pas loin d'Europe 1, à la porte de Versailles, se tient en ce moment le Nautique, le grand rendez-vous du monde du nautisme. Et je crois que ça bat son plein parce qu'on est sur des moments records. C'est-à-dire que le marché de la plaisance et du nautisme n'a jamais aussi bien fonctionné qu'en ce moment.
Alors effectivement, depuis plusieurs mois, chaque semaine, je dirais pratiquement, on bat nos records de vente, tant pour la location que pour la vente de bateaux dans le cadre de nos programmes de location-gestion. J'ai créé cette entreprise il y a 20 ans. Et j'avoue qu'on n'a jamais connu une période aussi dynamique.
Comment on l'explique ? C'est-à-dire qu'on a eu ces confinements à répétition, on a été bloqués chez nous, et la chose qui nous a le plus manqué, c'est le grand air, et encore plus peut-être l'idée de pouvoir voguer ?
Je pense, oui. Le confinement, la pandémie a permis à notre activité de se mettre en valeur. Pourquoi ? Parce qu'on offre la possibilité de partir en famille ou entre amis, donc loin des grandes concentrations humaines, urbaines, dans les plus beaux endroits de la Terre, à bord de bateaux qui sont très confortables. Les bateaux modernes offrent tout le confort d'un appartement flottant. Vous avez des bateaux climatisés avec bien sûr l'eau chaude, tous les équipements de loisirs. Donc ça apparaît comme une bulle, un cocon qui permet de profiter de la vie loin des risques de la pandémie.
Et ça se vérifie là, en ce moment même, sur le salon du nautisme qui s'appelle le Nautique. Là encore, vous avez l'impression d'avoir comme jamais des demandes ?
Écoutez, oui, on est aujourd'hui, on est lundi après-midi. Traditionnellement, lundi après-midi, c'est pas les meilleurs jours. Le week-end est très actif. Là, sur notre stand, c'est plein. Je crois qu'encore une fois, j'ai jamais vu ça un lundi après-midi. Donc, tant des gens qui viennent pour réserver un bateau pour leurs prochaines vacances que ceux qui viennent acheter des bateaux. On a vendu 3 catamarans pendant le week-end dans le cadre de nos programmes de location-gestion. Et les 3 ventes, c'était des primo-accédants, comme on dirait dans l'immobilier. Donc des gens qui ont découvert nos services et qui ont estimé que ça correspondait parfaitement à leurs attentes.
C'est ça, parce que vous offrez aussi une alternative. Le marché du nautisme est un petit peu en train de se démocratiser puisque acheter un bateau, même moyenne gamme, ça coûte très cher à entretenir, on paie très cher ce qu'on appelle les anneaux pour pouvoir les garer. Est-ce que grâce à vous, grâce à des solutions par exemple de location-gérance comme ce que vous proposez, ça fait venir un autre public, un public différent, plus jeune et peut-être moins aisé, mais qui peut quand même s'offrir le bonheur du grand large grâce à ce genre de solution ?
Oui, effectivement, il y a une démocratisation qui est à la fois démocratisation financière et aussi dans l'usage. Alors financière, c'est simple. Pourquoi ? Parce que lorsque vous achetez un bateau avec Dream Yacht, Dream Yacht va l'exploiter, le louer et vous versez des revenus garantis pendant les 5 ans de votre contrat. Donc ça vous permet de financer la moitié de votre bateau. Et d'autre part, ça vous permet aussi de faire du bateau à tout moment, partout dans le monde. Et ça, c'est vraiment clé. Pourquoi ? Parce que vous achetez un bateau, vous avez un anneau en Bretagne ou en Corse. Vous allez faire du bateau là où il se trouve. Avec le système Dreamyacht, vous allez pouvoir faire du bateau toute l'année sur l'une de nos 50 bases. On a des bases, ça va de l'Australie à Cuba en passant par toute la Méditerranée, l'océan Indien, les Antilles. Et à tout moment, vous allez pouvoir disposer d'un bateau qui sera prêt lorsque vous arrivez. Parce que si vous faites du bateau, vous n'êtes pas sans savoir que le bateau, on arrive, il y a toujours les trucs de dernière minute, les tracas. Et là, vous arrivez, vous avez un chef de base qui vous accueille, votre bateau est prêt, vous mettez le sac à bord et vous levez les amarres et vous partez.
Alors tout ça a un coût, hein. Je crois que ça commence à 1 200 € la semaine, si je dis pas d'annerie. Malgré tout, là, on est en pleine cinquième vague. Partout dans le monde, il y a à nouveau des restrictions pour pouvoir voyager. Est-ce que ça va venir freiner, d'après vous, la frénésie dont vous nous parlez, Loïc Bonnet ?
Alors, ça aura sûrement des répercussions, mais on fera comme nous avons fait durant les précédentes vagues. En fait, Dreamyacht a été agile, on a déplacé les bateaux. L'énorme avantage des bateaux par rapport aux hôtels, c'est qu'on peut les bouger. Donc, nous, on a rapproché nos bateaux des clients. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus voyager. Ce qu'on a fait dès la première vague, on a doublé nos flottes en France, on a ajouté des bateaux en Italie, donc pour les Italiens. Et sur le marché américain, on a ouvert des bases en Floride, aux îles Vierges américaines, avec des bateaux qui venaient d'autres destinations. Donc, je pense qu'on va attendre. Hein,
vous allez arriver à passer pour le moment à peu près entre les gouttes. Alors du coup, faites-nous un peu rêver, là, parce que c'est vrai qu'on en a un peu marre de toutes ces restrictions. Ceux qui ont la chance de profiter de vos services, ils partent où à Noël ?
Alors, Noël, il n'y a pas de grand changement. Hein. Ce qui marche à Noël sont les Antilles. C'est la très haute saison pour les Antilles. Les Seychelles. Ont toujours bien marché, mais là, je crois que depuis 18 mois, c'est vraiment la destination probablement la plus demandée. Et puis, des destinations plus exotiques, parce que moins connues, comme le Mexique. On a une base sur la mer de Cortés, qui est absolument un endroit génial. Moi, j'aime beaucoup. Mais les grands classiques, ça reste tout l'arc antillais. Et les Bahamas. Les Bahamas, qui étaient une destination très américaine, commencent à être très prisées par les Européens.
Et du coup, de ce qu'on entend, finalement, le bateau, un peu comme tous les modes de transport, comme la voiture ou autre, devient plus que jamais un mode partagé.
Oui, tout à fait. Vous savez, hein, vous connaissez les chiffres, les statistiques.
Il paraît que c'est 13 jours que l'on l'utilise par an.
Exactement. Donc 13 jours par an pour un objet qui vaut quelques centaines de milliers d'euros. C'est un non-sens économique et c'est un non-sens environnemental aussi. Donc en fait, pourquoi avoir un bateau par famille ? Autant pouvoir faire de l'économie partagée et faire en sorte que le bateau tourne 20, 25, 30 semaines par an.
Eh bien, merci beaucoup Loïc Bonnet. Je rappelle que vous êtes le PDG de Dreamyacht Group. Un grand merci d'avoir été en ligne. On a enregistré cette interview cet après-midi depuis le salon du nautique où on l'a entendu. Ça bat son plein en ce moment et on est en train de battre chaque jour des records pour ce marché du nautisme. Un grand merci à vous. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci Emmanuel. Rendez-vous également avec vous demain avec Elisabeth Assayac de 13h à 14h pour La France Bouge sur Europe 1, à l'heure où de plus en plus de maisons de mode suppriment la fourrure animale de leur collection. Dernière avancée en date, toutes les éditions du magazine Elle ne montrent plus de vraies fourrures. Eh bien, vous vous intéresserez demain, Emmanuel, à l'industrie de la fausse fourrure avec le leader français Ecopel.
C'était l'invité éco avec BNP Paribas. Des conseils, solutions et des équipes dédiées pour accélérer la croissance de votre entreprise. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
À la une de vos quotidiens pour ce mardi 7 décembre, le virus, encore, et oui, bien sûr, le virus qui surgit énorme du nez d'un écolier sur ce dessin de Coco à la une de Libé. Covid et enfants, ça nous pend au nez. Vaccination, fête de fin d'année, date des vacances scolaires, Libé décortique les conséquences de l'augmentation abrupte du taux d'incidence observé chez les plus jeunes. Valérie Pécresse à la une du Figaro, tout juste investie candidate par les Républicains, les adhérents, et bien elle s'invite dans la bataille du second tour. On vous parle de ce sondage ce soir sur Europe 1. La candidate LR qui bondit de 7 points à 17%, ce qui la place à égalité avec Marine Le Pen et ce qui lui permet aussi d'envisager une présence au second tour. Tandis qu'aujourd'hui en France, s'intéresse de son côté au fléau des conducteurs sans permis. Le nombre de délits de défaut de permis ne cesse d'augmenter. Près de 800 000 Français roulent aujourd'hui sans en avoir le droit. 9% des accidents mortels sur la route impliquent des conducteurs qui ne disposent pas du précieux sésame. C'est donc à lire dans Aujourd'hui en France. 22h30 sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous rejoint également à l'instant Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Alexandre, comment allez-vous?
Ça va très bien, le week-end a été bon?
Il a été parfait.
Vous avez l'air en tout cas d'être en pleine forme.
Ouais, je suis parfaitement reposé comme en début de chaque semaine. Et vous?
Bah pareil.
Bah écoutez, voilà.
Sur la même ligne que vous.
Nous voilà en pleine forme.
Voilà, exactement.
Et on se retrouve tout à l'heure à 23h pour votre flash.
Exactement, Olivier.
À tout à l'heure, Alexandre.